C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Les youtubeurs sont en train de tomber les uns après les autres. Et pour décrypter ce phénomène, j'ai le plaisir d'être avec monsieur Adjane Chélil ce matin.
Salut Thibaut, salut à tous. Effectivement, nos soldats de la création Internet sont en train de tomber les uns après les autres sur le champ de bataille. C'est très dur.
C'est l'hécatombe.
C'est l'hécatombe.
C'est l'hécatombe. Et visiblement...
De silence peut-être.
Visiblement, le phénomène du burn-out ne cesse de se propager de créateurs de contenu en créatrices de contenu, notamment du côté des youtubeurs. Les quelques-uns comme ça à la volée. McFly Carlito, évidemment. Lena Situation. Villebrequin.
Mastu.
Squeezie. Que se passe-t-il exactement?
Est-ce qu'il en reste des debout, moi, c'est la question que je me pose.
Que se passe-t-il en ce moment? Ce matin, on va essayer ensemble, peut-être de mettre le doigt sur ce phénomène de l'époque, et puis essayer de comprendre pourquoi effectivement le burn-out touche autant les créatrices et créateurs de contenu.
Ouais, super production, hyper performance amène à des situations d'épuisement. On va rentrer dans le détail, mais d'abord, c'est quoi aussi un burn-out? Peut-être définissons-le. On en
entend
beaucoup parler depuis quelques années. C'est un terme un petit peu nouveau dans le monde du travail, notamment, c'est souvent relié au monde du travail, le burn-out. C'est un état de fatigue intense et de grande détresse causé par le stress au travail. Donc, on voit bien que c'est lié à sa vie professionnelle, le burn-out. C'est plutôt de ce côté-là qu'on le range. On parle aussi souvent en sociologie de risques psychosociaux quand on travaille en entreprise. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, de choses qui sont faites en termes de santé au travail. On ne parle plus que d'ergonomie, de fatigue physique. On regarde aussi souvent dans le travail les risques psychosociaux pour voir si l'organisation, si la charge de travail, si tout ça peut entraîner des états de fatigue intense et de potentiel burn-out. Mais là, ce matin, on va se concentrer sur nos créateurs de contenu préférés.
Et oui, mais t'as raison. Le burn-out, c'est lié au travail. Et créateur de contenu, c'est un travail. En quelques années, YouTuber, c'est devenu un véritable métier. Un métier qui est convoité, qui est envié. Et pourtant, avec le statut et apparu aussi le poids du fardeau, avec plusieurs choses. Déjà, la course effrénée à la surproduction, les vidéos face caméra à la Cyprien ou à la Norman, elles ont laissé place petit à petit à des productions audiovisuelles
plus en plus énormes,
plus en plus ambitieuses. Certaines chaînes vidéo YouTube rassemblent aujourd'hui davantage de staff et de personnel que certaines prods de vidéo télé. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un déplacement et que le métier s'est professionnalisé réellement.
Ouais, carrément. McFly et Carlito, d'ailleurs, en parlent de cette manière-là. Quand ils ont décidé de faire une pause sur leur vidéo sur YouTube, ils ont expliqué que ça fait plusieurs mois que la course à la vidéo hyper produite, au gros concept qu'on a tant aimé à une époque et tant pratiqué, n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus du tout inédite c'est ce qui se passe aujourd'hui partout sur YouTube. Mais moi, je trouve qu'on pourrait écouter le directeur général de Webedia, Greg Biwalski, qui en entend parler depuis le début 2023 des burn-out de YouTubeurs. Puis il est bien placé parce qu'il doit en gérer, il en gère quelques-uns.
J'espère qu'ils ont un bon service, ils ont une bonne infirmière à domicile.
Peut-être. Elle porte autour de la pression, c'est ce qu'il raconte lui en gros sur les burn-out et sur l'épuisement. Ça porte autour de la pression autour des nouveaux formats, beaucoup évoqués au cours de l'année, mais pas seulement. Les créateurs de contenu ont des agendas considérables. Il y a une exigence côté plateforme, et là ça dépasse même YouTube. On en retrouve aussi du côté TikTok, même parfois Instagram, sur une exigence des algorithmes qui poussent les créateurs de contenu à être dans une course effrénée à la création. Et puis les réseaux sociaux, ça s'arrête jamais. C'est ça qui peut être épuisant aussi. Quand on est sans cesse connecté à ses stats, aux personnes qui nous répondent en permanence, qui nous envoient des messages, qui nous sollicitent, forcément, on n'a pas envie de passer à côté de quelque chose. On a l'impression que dès qu'on publie pas pendant 2-3 jours, une semaine, ça y est, le monde entier nous oublie, quoi. Il y a un côté égo aussi. Hein.
Oui, oui, alors, course effrénée à la surproduction. C'est vrai qu'on l'a dit, YouTuber, c'est devenu un métier qui repose quand même sur l'attention de ses audiences. Hein.
Bien sûr.
C'est ça la clé. Et dans cette guerre à l'attention, eh ben, en quelques années, le level de production est devenu assez ouf. Donc là, tu parlais de McFly et Carlito. Ça, c'était en mars 2023, où ils annoncent faire une pause hein, pour raison burn-out. Hein. Même histoire ou presque du côté du duo Villebrequin, hein, qui eux, donc Villebrequin, channel YouTube spécialisé dans le l'automobile et le divertissement, on va dire, et qui ont décidé, eux, littéralement, d'arrêter leur chaîne, de tout couper et de laisser sur le carreau 2 millions d'abonnés et une hype énorme, hein, parce que cette chaîne, elle était en pleine explosion.
Il faut avoir beaucoup de courage pour laisser 2 millions de... une audience de 2 millions de personnes comme ça sur le côté.
Oui, et donc, il y a la surproduction, et puis il y a effectivement les algorithmes, hein, parce que face aux algorithmes, il y a aussi une recherche de l'hyper-performance. Et c'est quelque chose qu'on perçoit assez mal, hein, parce que vu de l'extérieur, le métier de créatrice ou créateur de contenu, il fait fantasmer les plus jeunes. Aux US, hein, je suis tombé sur ce chiffre, 30% des moins de 18 ans, 30% déclarent vouloir devenir YouTuber quand ils seront grands. Et on le comprend, le métier est sans doute passionnant. Par contre, ce qu'ils ne perçoivent peut-être pas, c'est que vu de l'intérieur, le métier, il est tout autre. C'est souvent un métier qui est plus violent que prévu. Il ne s'agit pas seulement de créer un contenu, mais de savoir le distribuer. Et ça, ce n'est pas si simple. Hein. Juste pour un rappel, hein, ceux qui peuvent vivre aujourd'hui de leur métier de créateur de ou créatrice de contenu,
nombreux.
Ça ne représente même pas 1% peu près de ceux qui se sont lancés. Et pour en vivre, eh ben, il faut de l'audience. Et pour ça, pour faire simple, il faut savoir distribuer son contenu dans un contexte qui est le suivant, marché hyper saturé de l'attention, et donc la concurrence est absolument dingue.
Mais tu vois, c'est déjà intéressant parce que en fait, sur ces vocations que sont en train de créer ces youtubeurs professionnels, Squeezie, il est en train de faire des petits partout en France.
Bien
aussi.
Bien sûr,
Michou,
hein. On en parle même
Michou,
pas.
Exactement, Inoxtag, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on se situe dans des espèces de métiers passion où quand on grandit et qu'on se dit qu'on va faire ça, on s'imagine que comme tu le disais, c'est facile parce que ça donne pas l'impression que c'est du travail. Quand t'as un petit qui joue à la console toute la journée, il se dit bah si je le fais en me streamant en même temps ou en créant de la vidéo autour de ma partie, c'est marrant.
C'est fun.
C'est fun. Je vais pas avoir l'impression de travailler. Je vais pas être au bureau comme tous ces ringards là à bosser.
Sauf que si je veux en vivre, eh ben il va falloir que je connaisse aussi d'autres choses. Hein. Le métier de créateur de contenu, c'est aujourd'hui un job qui est drivé par la perf, par les chiffres, la performance, les algos. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur et qui pourtant est au cœur du quotidien des créateurs de contenu. Je trouve qu'un très bon exemple est à trouver du côté du documentaire de Squeezie.
Ouais,
merci
il
Internet.
En parle très bien.
Où il en parle très bien et on comprend que son métier, c'est en grande partie, de savoir étudier des chiffres et des courbes d'audience, de savoir ce qui performe, ce qui ne performe pas, en tirer des conclusions. Après, il a appris tout ça sur le terrain, on le comprend très bien aussi. Et aujourd'hui, le gros de son métier, c'est de savoir faire des probabilités quasiment, des déductions du format qui va marcher ou moins bien marcher.
Et puis, il parle aussi du fait dans ce documentaire qu'il a appris avec l'expérience maintenant à avoir plus de recul sur ses stats. Parce qu'en fait, il explique qu'il y a un moment donné, il est complètement accro à ça. Dès qu'une vidéo sort, il va regarder toutes les 10 minutes pour voir comment ça se passe, le lancement, et tu veux jamais que tes statistiques baissent. Toi, t'as l'impression que voilà, chaque vidéo elle doit mieux performer que la précédente, et tu te mets une pression énorme à toujours maintenir tes stats et à toujours maintenir ton volume de vues, de portée, d'engagement. Donc maintenant, il explique qu'il a plus de recul là-dessus et que bon, bah, certaines vidéos fonctionnent moins bien que d'autres. Il en tire des conclusions et il avance comme ça en apprenant des choses, mais en se mettant peut-être un niveau de pression un peu moins psychologique sur la performance et l'ultra-performance.
Il y a aussi autre chose, être créatrice ou créateur de contenu, c'est être entrepreneur. C'est pas juste être un acteur, c'est pas juste allumer la caméra et savoir parler devant. Il faut savoir faire beaucoup de choses. Allez, faut avoir des idées originales, ok. Faut maîtriser la caméra et le son. Faut assurer soi-même le montage. Faut connaître les secrets des réseaux sociaux et des algorithmes. Faut savoir fédérer une communauté, soigner son image, trouver des partenariats commerciaux. C'est un job d'entrepreneur, hein. Et aujourd'hui, il y a les stars d'internet comme Squeezie, par exemple, sont à la tête de véritables entreprises avec des dizaines de collaborateurs, c'est une pression considérable de savoir gérer une équipe. Tiens, à l'été 2023, l'ENA Situation révélait avoir subi une hospitalisation suite à un ulcère déclenché par la pression qu'impose son activité. Ouais. Et son activité, c'est loin d'être exclusivement faire des vlogs au mois d'août, c'est gérer une entreprise.
Bah, elle raconte qu'elle pouvait pas faire son documentaire depuis 3 semaines sur la création de sa marque, en faire la promotion et montrer son ambition là-dedans, toute sa passion, sans montrer aussi et raconter les limites qu'elle avait connues dans tout ce lancement-là, puisque, comme tu le disais, elle a fait un petit séjour à l'hôpital, pas si grave, mais voilà, elle a subi des crises d'angoisse, elle se sentait sous pression, oppressée par tous ces lancements et tout ce qu'elle devait faire en même temps, et son corps a lâché. Et je trouve que ça, c'est un autre point commun entre tous les créateurs de contenu qu'on oublie, t'as raison de le souligner, c'est le fait d'être entrepreneur. Et je trouve que même dans notre société actuelle, moi j'appelle ça un peu le piège de l'entrepreneuriat. On a l'impression que c'est une énorme liberté d'être entrepreneur, que le CDI c'est un enfermement, travailler dans une boîte c'est oppressant, on s'engage sur le long terme, etc. Mais on a souvent du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça veut dire être free, être entrepreneur aujourd'hui, et quelle pression c'est de pas avoir de revenus réguliers, de devoir toujours travailler plus pour pouvoir essayer de gagner sa croûte et
de négocier des contrats, de faire de la facture,
et où s'arrête après aussi ta vie professionnelle et ta vie personnelle, parce que c'est ça qui est très intéressant et ce que racontent beaucoup de youtubeurs, c'est qu'en fait pour réussir, il y a aucun de ces youtubeurs qui a pas charbonné de chez charbonné, c'est-à-dire que tous ceux qui ont performé sur YouTube ou tous les créateurs de contenu qui ont vraiment cartonné, c'est des charbonneurs, c'est des gens qui ont travaillé des heures et des heures les week-ends, qui ont laissé leur vie perso de côté. Et en fait, c'est quand justement cet équilibre-là s'effondre que tu finis par faire un burn-out et être en épuisement. Donc, c'est hyper intéressant parce que depuis le Covid, on voit beaucoup de tangentes, de rêves américains s'écrire sur la slow life, la vie d'entrepreneur douce, le fait d'être un digital nomade. Je pense que les influenceurs travel aussi ont détruit beaucoup de choses là-dedans. En tout cas, on construit un imaginaire qui est pas vraiment réel à mon avis, et on a construit toute une image que justement les créateurs de contenu aujourd'hui, en prenant la parole sur l'épuisement que c'est de réussir dans ce milieu-là, sur la dose de travail qu'il faut amener, sont en train de rééquilibrer pour montrer à tout le monde que non, on peut pas réussir et vivre de la création de contenu comme ça en travaillant 5 heures par jour et puis après en profitant de ses amis, quoi.
Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, je trouve que dans les familles de créatrices et créateurs de contenu, il y a deux groupes. Il y a notamment un groupe qui est celui des tryharders, les streamers. Eux, ils ont une culture de l'hyper-performance. Eux, ils ont une culture du tryhard, de bosser.
Je stream toute la journée.
Et c'est même un truc qui, culturellement, ils développent, hein, et ils acceptent de raconter très volontiers. Ils streament pendant des heures, ils passent leur temps à faire ça. Et il est entendu par leurs audiences, et leurs audiences aussi les gratifient pour ça. Et c'est vrai qu'on voit un peu ces deux cultures là, hein. D'un côté les youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs qui essayent de travailler un narratif inspirationnel, parfois très éloigné
de leur réalité
et un peu dichotomique. Et de l'autre côté, tu as les streamers qui eux sont en mode genre moi try hard, je fais que ça.
Et ça fait partie de mon storytelling de dire
je
suis un gros taffeur, je stream de midi à minuit non-stop et je suis là tout le temps, effectivement.
Il y a un autre poids, sur les épaules des créateurs de contenu, c'est la notoriété, évidemment.
Je trouve que ça, c'est hyper paradoxal. Comment j'ai préparer cet épisode, je l'ai écrit comme le paradoxe entre une ultra sollicitation et un isolement. En fait, ils vivent les deux en permanence, ces stars, parce que là on parle quand même des grosses stars de la création de contenu. C'est que d'un côté, ils sont dans des métiers qui nécessitent d'avoir une énorme communauté et d'être reconnus partout, donc ça veut dire que dès qu'ils sortent dans la rue, ils sont sollicités, dès qu'ils vivent en public, ils sont sollicités. Ils ont en plus maintenant, dans la construction du métier de youtubeur, vraiment beaucoup d'événements en soirée avec des placements de marque, etc. Donc ils vont travailler la journée sur leur création de contenu, puis le soir ils vont aller en représentation dans des événements à droite à gauche, et ils vont être sollicités en permanence dans des bains de foule. Et pourtant, pour arriver à maintenir leur, comme on le disait tout à l'heure, leur niveau de création, etc., ils vont beaucoup être en isolement dans leur travail, bosser tout seul, avancer des concepts, monter des vidéos. Parfois, les plus costauds se font accompagner d'équipes parce que ça devient ingérable. Mais on en voit aussi beaucoup qui racontent être complètement isolés et faire 3 métiers à la fois. Et en fait, ils sont tout le temps dans ce truc de, en même temps, tout le monde me connaît et tout le monde me voit dans la rue. Et en même temps, je me sens un petit peu isolé dans ma situation, mais ça ressemble un peu à ce que peuvent vivre beaucoup d'énormes stars, en fait, peu importe le domaine.
Oui, alors autre point sur la notoriété, c'est aussi la viralité qui est inhérente aux nouvelles plateformes. Je pense à TikTok notamment, où là, tu peux être propulsé vraiment sur le devant de la scène en quelques semaines. On a tous un exemple en tête, c'est Abrège Frère. Ouais, Abrège Frère, donc créateur de contenu TikTok. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil à son compte TikTok. Lui, littéralement quelques jours.
En 24 heures.
Il est passé de 0 à 1,5 million d'abonnés. C'est quand même impressionnant. Ce mec-là, il est commercial. Hein, ouais. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec 1,5 million de personnes qui suivaient ses contenus. Et surtout...
Une polémique au bout de 4 jours.
Parce qu'à la base, il part avec un concept plutôt simple, bon enfant et sympathique. Et puis, il se retrouve avec une ribambelle de polémiques aux fesses qui sont très difficiles à gérer quand cet univers.
Faut s'imaginer que t'as quelqu'un là, au-delà de son cas personnel à lui, mais qui arrive de plus en plus régulièrement, je suis inconnu en 24 heures, toute la France me connaît, et en 5 jours, il y a la moitié qui me déteste. Donc, il faut arriver à gérer ces hauts et ces bas de que tu pourrais connaître sur une carrière entière, mais en 5 jours, c'est fou.
Et autre point, hein, être créateur ou créatrice de contenu, c'est savoir marketer sa personnalité. C'est un peu le cœur de la promesse que font ces créatrices et créateurs de contenu. C'est « je suis le personnage principal des histoires que je vais te raconter ». Du coup, il y a quand même un truc compliqué. Tu dois vivre avec pas mal de choses, et notamment le syndrome de l'étoile filante. Tu vois, te dire que je markete ma personnalité, donc j'ai façonné un personnage, mais ce personnage peut se casser la gueule du jour au lendemain.
Bien
et
sûr.
Je vis toujours avec ce fardeau sur les épaules. On pourrait parler aussi des nombreux débordements de fans. Hein. Léna Situation, encore elle, hein, qui expliquait qu'elle s'est retrouvée avec des commentaires insultants en ribambelle.
Bien sûr, ça.
Certains sont allés menacer sa propre famille, etc.
Il y a Mastou qu'en parle aussi, Mastou de tout ça, mais de manière un peu plus bon enfant, mais qui est aussi compliqué à vivre pour lui, où il se retrouve avec du harcèlement de la part de ses propres fans devant chez lui, qui ont retrouvé son adresse. Et il explique que pendant un certain temps, il a dû vivre la journée les volets fermés pour avoir un peu d'intimité et pas qu'on soit tout le temps en train d'épier ce qu'il faisait chez lui. Donc c'est le genre de situation qui t'aide pas aussi à aller bien dans la vie. Hein,
au-delà même des créatrices et créateurs de contenu, on a un sujet générationnel autour du burn-out. Il y a une génération entière en ce moment qui souffre de soit de syndrome post-traumatique, soit de situations psychologiques complexes. Les arrêts maladie pour motifs psychologiques ont explosé. Je suis tombé sur ce chiffre qui est hallucinant. C'est le baromètre OpinionWay, 10e baromètre OpinionWay sur la santé psychologique des salariés français. Donc, ils sont allés poser des questions aux salariés français. Les populations les plus à risque, eh bien, ce sont les jeunes. Écoute bien ce chiffre, 59% des moins de 29 ans se sont fait arrêter pour motifs psychologiques, donc en gros pour burn-out ou quasi-burn-out, 59% des moins de 29 ans. On atteint niveaux de burn-out en France qui sont hors du commun et qui sont trois fois plus importants à l'avant-Covid. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est pour ça que je parle de drame post-traumatique, parce que peut-être syndrome post-traumatique, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et qu'on commence seulement à voir maintenant post-Covid, avec plein de raisons à la clé, qu'on a listé ici, rapportées aux créateurs de contenu, mais peut-être rapportées à notre quotidien à tous, manque de préparation à la vie professionnelle, désillusion quant au métier, manque de sens, on voit nombre de créateurs souligner ce point-là. Les raisons sont multiples, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un problème.
Ouais, il y a un problème. Je pense que aussi, c'est pourquoi on voit de plus en plus d'arrêts comme ça, de problématiques comme ça, c'est que c'est aussi de plus en plus reconnu. Il y a 15 ans en arrière, les médecins n'arrêtaient pas les gens pour des raisons psychologiques. Et à la limite, s'il y avait quelqu'un en détresse psychologique, ils l'arrêtaient pour autre chose. Le motif était jamais celui-ci. C'est assez récent que dans les études, comme je disais tout à l'heure, en psychosociaux, qu'on ait des études qui démontrent qu'il peut y avoir des problèmes d'épuisement mental, et le concept de burn-out qui est devenu de plus en plus populaire et dont on est tous maintenant au courant. Et puis, je pense que c'est une génération, effectivement, qui est en recherche de sens dans son travail et que c'est... c'est compliqué parfois dans certaines entreprises de trouver du sens à ce qu'on fait.
Mais c'est même compliqué quand on est créateur de contenu. Hein, donc
exactement. Quel est l'enjeu collectif aussi ? Quel est le projet collectif dans lequel on se retrouve et dans lequel on a envie de participer et s'investir et s'épanouir ? Et je pense que beaucoup d'entreprises devraient essayer de se tourner vers ces questions-là de quel projet collectif je vends entre guillemets à mes employés pour qu'ils aient envie de bosser. Quand on est créateur de contenu, c'est nous-mêmes qui devons trouver ce projet, donc c'est encore plus compliqué.
Bon, voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin, on a parlé burn-out, c'était pas forcément marrant, mais il fallait quand même le dire. Les amis,
c'est un phénomène.
Je vais être cash avec vous. Si vous voulez pas que l'équipe de Super Daily fasse un burn-out, oui, nous sommes aussi des créatrices et créateurs de contenu.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais nous, on est des créateurs de contenu tous les matins.
Et nous aussi, on regarde les stats.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on vous demande comme petite faveur ? C'est de vous abonner à ce podcast, de balancer cet épisode à un pote ou une pote. Hein, ça nous donne un vrai coup de pouce. Ça permet qu'il y ait plus de monde qui découvre le Super Daily. Et puis, peut-être même qu'in fine, ça va nous empêcher de faire un burn-out. Donc, merci à vous.
Merci à tous. Partagez donc ça à vos meilleurs potes. Et on se retrouve dès lundi 9h sur Twitch et de partout.
Allez, très belle journée. Salut tout le monde. Ciao.